La cigale, troisième partie, le chant. Dans mon voisinage, je peux faire récolte de 5 espèces de cigales, dont les deux principales sont la cigale commune et la cigale de l'Orne, l'une et l'autre fort répandues et les seules connues des gens de la campagne. La plus grosse est la cigale commune. Sommairement, décrivons d'abord son appareil sonore. Sous la poitrine du mâle, immédiatement en arrière des pattes postérieures, sont deux amples plaques semi-circulaires, chevauchant un peu l'une sur l'autre, celle de droite sur celle de gauche. Ce sont les volets, les couvercles, les étouffoirs, enfin les opercules du bruyant appareil. Soulevons-les. Alors s'ouvrent l'une à droite, l'autre à gauche, deux spacieuses cavités connues en Provence sous le nom de chapelle, les capello. Leur ensemble forme l'église, la gleiso. Elles sont limitées en avant par une membrane d'un jaune crème, fine et molle. En arrière, par une pellicule aride, irisée, ainsi qu'une bulle de savon, et dénommée miroir en provençal, mirao. L'église, les miroirs, les couvercles, sont vulgairement considérés comme les organes producteurs du son. D'un chanteur qui manque de souffle, on dit qu'il a les miroirs crevés, alimira au créba. Le langage imagé le dit aussi du poète sans inspiration. L'acoustique dément la croyance populaire. On peut crever les miroirs, enlever les opercules d'un coup de ciseau, dilacérer la membrane jaune antérieure, et ces mutilations n'abolissent pas le chant de la cigale. Elles l'altèrent simplement, l'affaiblissent un peu. Les chapelles sont des appareils de résonance. Elles ne produisent pas le son, elles le renforcent par les vibrations de leurs membranes d'avant et d'arrière. Elles le modifient par leurs volets plus ou moins entrouverts. Le véritable organe sonore est ailleurs et assez difficile à trouver pour un novice. Sur le flanc externe de l'une et de l'autre chapelle, à l'arête de jonction du ventre et du dos, bâille une boutonnière délimitée par des parois cornées et masqué par l'opercule rabattu. Donnons-lui le nom de fenêtre. Cette ouverture donne accès dans une cavité ou chambre sonore plus profonde que la chapelle voisine, mais d'ampleur bien moindre. Immédiatement en arrière du point d'attache des ailes postérieures se voit une légère protubérance, à peu près ovalaire, qui, par sa coloration d'un noir mat, se distingue des téguments voisins à duvet argenté. Cette protubérance est la paroi extérieure de la chambre sonore. Pratiquons-y large brèche. Alors apparaît à découvert l'appareil producteur du son, la cymbale. C'est une petite membrane aride, blanche, de forme ovalaire, convexe au dehors, parcourue d'un bout à l'autre de son grand diamètre par un faisceau de 3 ou 4 nervures brunes qui lui donne du ressort et fixée en tout son pourtour dans un encadrement rigide. Imaginons que cette écaille bombée se déforme, tiraillée à l'intérieur, se déprime un peu, puis rapidement revienne à sa convexité première par le fait de ses élastiques nervures. Un cliquetis résultera de ce va-et-vient. Il y a une vingtaine d'années, la capitale s'était éprise d'un stupide jouet appelé criquet, ou cricri, si je ne me trompe. C'était une courte lame d'acier fixée d'un bout sur une base métallique. Pressée et déformée du pouce, puis abandonnée à elle-même, tour à tour, la dite lame, à défaut d'autres mérites, avait un cliquetis fort agaçant. Il n'en faut pas davantage pour captiver les suffrages populaires. Le criquet eut ses jours de gloire. L'oubli en a fait justice et de façon si radicale que je crains de ne pas être compris en rappelant le célèbre engin. La cymbale membraneuse et le criquet d'acier sont des instruments analogues. L'un et l'autre bruissent par la déformation d'une lame élastique et le retour à l'état primitif. Le criquet se déforme par la pression du pouce. Comment se modifie la convexité des cymbales? Revenons à l'église et crevons le rideau jaune qui délimite en avant chaque chapelle. Deux gros piliers musculaires se montrent, d'un orangé pâle, associés en forme de V, dont la pointe repose sur la ligne médiane de l'insecte à la face inférieure. Chacun de ces piliers charnus se termine brusquement en haut, comme tronqué, et de la troncature s'élève un court et mince cordon qui va se rattacher latéralement à la cymbale correspondante. Tout le mécanisme est là, non moins simple que celui du criquet métallique. Les deux colonnes musculaires se contractent et se relâchent, se raccourcissent et s'allongent. Au moyen d'un lien terminal, elles tiraillent donc chacune sa cymbale, la déprime et aussitôt l'abandonnent à son propre ressort. Ainsi vibrent les deux écailles sonores. Veut-on se convaincre de l'efficacité de ce mécanisme? Veut-on faire chanter une cigale morte mais encore fraîche? Rien de plus simple. Saisissons avec des pinces l'une des colonnes musculaires et tirons par secousses ménagées. Le cri-cri mort ressuscite. À chaque secousse bruit le cliquetis de la cymbale. C'est très maigre, il est vrai, dépourvu de cette ampleur que le virtuose vivant obtient au moyen de ses chambres de résonance. L'élément fondamental de la chanson n'en est pas moins obtenu par cet artifice d'anatomiste. Veut-on, au contraire, rendre muette une cigale vivante, obstinée mélomane qui, saisie, tourmentée entre les doigts, déplore son infortune aussi loquacement que tantôt, sur l'arbre, elle célébrait ses joies? Inutile de lui violenter les chapelles, de lui crever les miroirs, l'atroce mutilation ne la modérerait pas. Mais par la boutonnière latérale, que nous avons nommée fenêtre, introduisons une épingle et atteignons la cymbale au fond de la chambre sonore. Un petit coup de rien, et se tait la cymbale trouée. Pareille opération sur l'autre flanc achève de rendre aphone l'insecte, vigoureux d'ailleurs comme avant, sans blessure sensible. Qui n'est pas au courant de l'affaire reste émerveillé devant le résultat de mon coup d'épingle lorsque la ruine des miroirs et autres dépendances de l'église n'amène pas le silence. Une subtile piqûre, d'une gravité négligeable, produit ce que ne donnerait pas l'éventrement de la bête. Les opercules, plaques rigides, solidement encastrées, sont immobiles. C'est l'abdomen lui-même qui, se relevant ou s'abaissant, fait ouvrir ou fermer l'église. Quand le ventre est abaissé, les opercules obturent exactement les chapelles, ainsi que les fenêtres des chambres sonores. Le son est alors affaibli, sourd, étouffé. Quand le ventre se relève, les chapelles bâillent, les fenêtres sont libres, et le son acquiert tout son éclat. Les rapides oscillations de l'abdomen, synchroniques avec les contractions des muscles moteurs des cymbales, déterminent donc l'ampleur variable du son, qui semble provenir de coups d'archet précipités. Si le temps est calme, chaud, vers l'heure méridienne, le chant de la cigale se subdivise en strophes de la durée de quelques secondes et séparé par de courts silences. La strophe brusquement débute. Par une ascension rapide, l'abdomen oscillant de plus en plus vite, elle acquiert le maximum d'éclat. Elle se maintient avec la même puissance quelques secondes, puis faiblit par degrés et dégénère en un frémissement qui décroît à mesure que le ventre revient au repos. Avec les dernières pulsations abdominales, survient le silence, de durée variable, suivant l'état de l'atmosphère. Puis soudain, nouvelle strophe, répétition monotone de la première, ainsi de suite, indéfiniment. Il arrive parfois, surtout aux heures des soirées lourdes, que l'insecte, enivré de soleil, abrège les silences et les supprime même. Le chant est alors continu, mais toujours avec alternance de crescendo et de décrescendo. C'est vers les 7 ou 8 heures du matin que se donnent les premiers coups d'archet, et l'orchestre ne cesse qu'aux lueurs mourantes du crépuscule vers les 8 heures du soir. Total, le tour complet du cadran pour la durée du concert. Mais si le ciel est couvert, si le vent souffle trop froid, la cigale se tait. La seconde espèce, de moitié moindre que la cigale commune, porte dans le pays le nom de cacan, imitation assez exacte de sa façon de bruire. C'est la cigale de l'orne des naturalistes, beaucoup plus alerte, plus méfiante que la première. Son chant, rauque et fort, est une série de « quand, quand, quand » sans aucun silence, subdivisant l'ode en strophes. Par sa monotonie, son aigre rossité, il est des plus odieux, surtout quand l'orchestre se compose de quelques centaines d'exécutants, ainsi que cela se passe sur mes 2 platanes pendant la canicule. On dirait alors qu'un amas de noix sèches est ballotté dans un sac, jusqu'à rupture des coques. L'agaçant concert, vrai supplice, n'a qu'un médiocre palliatif. La cigale de l'orne est un peu moins matinale que la cigale commune, et ne s'attarde pas autant dans la soirée. Bien que construit sur les mêmes principes fondamentaux, l'appareil vocal offre de nombreuses particularités qui donnent au chant son caractère spécial. La chambre sonore manque de plein, ce qui supprime son entrée, la fenêtre. La cymbale se montre à découvert, immédiatement en arrière de l'insertion de l'aile postérieure. C'est encore une aride écaille blanche, convexe au dehors, et parcourue par un faisceau de 5 nervures, d'un brun rougeâtre. Le premier segment de l'abdomen émet en avant une large et courte languette rigide qui, par son extrémité libre, s'appuie sur la cymbale. Cette languette peut être comparée à la lame d'une crécelle, qui, au lieu de s'appliquer sur les dents d'une noix en rotation, toucherait plus ou moins les nervures de la cymbale vibrante. De là doit résulter en partie, ce me semble, le son rauque et criard. Il n'est guère possible de vérifier le fait en tenant l'animal entre les doigts. Le cacan effarouché est loin de faire entendre alors sa normale chanson. Les opercules ne chevauchent pas l'un sur l'autre. Ils sont au contraire séparés par un assez long intervalle. Avec les languettes rigides, appendice de l'abdomen, ils abritent à demi les cymbales complètement à découvert sur l'autre moitié. Sous la pression du doigt, l'abdomen bâille peu dans son articulation avec le thorax. Du reste, l'insecte se tient immobile quand il chante. Il ignore les rapides trémoussements du ventre, source de modulation dans le chant de la cigale commune. Les chapelles sont très petites, presque négligeables comme appareil de résonance. Il y a toutefois des miroirs, mais fort réduits, et mesurant 1 mm à peine. En somme, l'appareil de résonance, si développé dans la cigale commune, est ici très rudimentaire. Comment alors se renforce, jusqu'à devenir intolérable, le maigre cliquetis des cymbales? La cigale de l'orne est ventriloque. Si l'on examine l'abdomen par transparence, on le voit translucide dans ses 2/3 antérieurs. D'un coup de ciseau, retranchons le tiers opaque où sont relégués, réduits au strict indispensable, les organes dont ne peuvent se passer la propagation de l'espèce et la conservation de l'individu. Le reste du ventre, largement, bâille et présente une ample cavité, réduite à ses parois tégumentaires, sauf à la face dorsale, qui, tapissée d'une mince couche musculaire, donne appui au fin canal digestif, un fil presque. La vaste capacité, formant près de la moitié du volume total de la bête, est donc vide, ou peu s'en faut. Au fond, se voient les 2 piliers moteurs des cymbales, les 2 colonnes musculaires assemblées en V. À droite et à gauche de la pointe de ce V brillent les 2 miroirs minuscules, et entre les 2 branches, dans les profondeurs du thorax, se prolonge l'espace vide. Ce ventre creux et son complément thoracique sont un énorme résonateur, comme n'en possède de comparable nul autre virtuose de nos régions. Si je ferme du doigt l'orifice de l'abdomen que je viens de tronquer, le son devient plus grave, conformément aux lois des tuyaux sonores. Si j'adapte à l'embouchure du ventre ouvert un cylindre, un cornet de papier, le son gagne en intensité aussi bien qu'en gravité. Avec un cornet réglé à point et de plus immergé par son large bout dans l'embouchure d'une éprouvette renforçante, ce n'est plus chant de cigale, c'est presque beuglement de taureau. Mes jeunes enfants, se trouvant là par hasard au moment de mes expériences acoustiques, s'enfuient épouvantés. L'insecte qui leur est si familier leur inspire terreur. La cause de la roussité du son paraît être la languette de crécelle frôlant les nervures des cymbales en vibration. La cause de l'intensité est, à n'en pas douter, le spacieux résonateur du ventre. Il faut être, reconnaissons-le, bien passionné de chant pour se vider ainsi le ventre et la poitrine en faveur d'une boîte à musique. Les organes essentiels de la vie s'amoindrissent à l'extrême, se confinent dans un étroit recoin, pour laisser vaste ampleur à la caisse de résonance. Le chant d'abord, le reste au second rang. Il est heureux que la cigale de l'orne ne suive pas les conseils des évolutionnistes. Si, plus enthousiaste d'une génération à l'autre, elle pouvait acquérir, de progrès en progrès, un résonateur ventral comparable à celui que font mes cornets de papier, la Provence, peuplée de cacans, serait un jour inhabitable. Après les détails déjà donnés sur la cigale commune, est-il bien nécessaire de dire comment se réduit au silence l'insupportable bavarde de l'orne? Les cymbales sont bien visibles à l'extérieur, on les perce avec la pointe d'une aiguille. À l'instant, silence complet. Que n'y a-t-il sur mes platanes, parmi les insectes porteurs de stylets, des auxiliaires amis, eux aussi, de la tranquillité, et dévoués à pareil travail? Vœux insensés. une note manquerait à la majestueuse symphonie de la moisson. Voilà franchi les broussailles descriptives. L'instrument sonore nous est connu en sa structure. Pour finir, demandons-nous le but de ces orgies musicales. À quoi bon tant de bruit? Une réponse est inévitable. C'est l'appel des mâles invitant leurs compagnes. C'est la cantate des amoureux. Je me permettrai de discuter la réponse, très naturelle d'ailleurs. Voilà une trentaine d'années que la cigale commune et son nègre associé, le cacan, m'imposent leur société. Tous les étés, pendant 2 mois, je les ai sous les yeux, je les ai dans les oreilles. Si je ne les écoute pas volontiers, je les observe avec quelque zèle. Je les vois rangés, en file, sur l'écorce lisse des platanes, tous la tête en haut, les deux sexes mélangés à quelques pouces l'un de l'autre. Le suçoir implanté, ils s'abreuvent, immobiles. À mesure que le soleil tourne et déplace l'ombre, ils tournent aussi autour de la branche, par lentes enjambées latérales, et gagnent la face la mieux illuminée, la plus chaude. Que le suçoir fonctionne ou que le déménagement se fasse, le chant ne discontinue pas. Convient-il de prendre l'interminable cantilène pour un appel passionné? J'hésite. Dans l'assemblée, les deux sexes sont côte à côte, et l'on n'appelle pas des mois durant quiconque vous coudoie. Je ne vois jamais, du reste, accourir une femelle au milieu de l'orchestre le plus bruyant. Comme prélude du mariage, la vue suffit ici car elle est excellente. Le prétendant n'a que faire d'une sempiternelle déclaration. La prétendue est sa proche voisine. Serait-ce alors un moyen de charmer, de toucher l'insensible? Mon doute persiste. Je ne surprends dans les femelles aucun signe de satisfaction. Je ne les vois jamais se trémousser un peu, dodeliner lorsque les amoureux prodiguent leurs plus éclatants coups de cymbales. Les paysans, mes voisins, disent qu'en temps de moisson, la cigale leur chante « Sego, 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 fauche, fauche, fauche » pour les encourager au travail. Moissonneurs d'idées et moissonneurs d'épis, nous sommes mêmes gens, travaillant, ceci pour le pain de l'estomac, cela pour le pain de l'intelligence. Leur explication, je la comprends donc, et je l'adopte comme gracieuse naïveté. La science désire mieux, mais elle trouve dans l'insecte un monde fermé pour nous. Nulle possibilité d'entrevoir, de soupçonner même l'impression produite par le cliquetis des cymbales sur celle qui l'inspire. Tout ce que je peux dire, c'est que leur extérieur impassible semble dénoter complète indifférence. N'insistons pas, le sentiment intime de la bête est mystère insondable. Un autre motif de doute est celui-ci. Qui est sensible au chant a toujours l'ouïe fine, et cette ouïe, sentinelle vigilante, doit, au moindre bruit, donner l'éveil du danger. Les oiseaux, chanteurs émérites, ont une exquise finesse d'audition. Pour une feuille remuée dans le branchage, pour une parole échangée entre passants, soudain, ils se taisent, inquiets, sur leur garde. Ah, que la cigale est loin de telle émotion! Elle a la vue très fine, ses gros yeux à facettes l'instruisent de ce qui se passe à droite et de ce qui se passe à gauche. Ses 3 stemmates, petits télescopes en rubis, explorent l'étendue au-dessus du front. Qu'elle nous voit venir, et aussitôt elle se tait, s'envole. Mais plaçons-nous derrière la branche où elle chante. Disposons-nous de façon à éviter les 5 appareils de vision. Et là, parlons, sifflons, faisons claquer les mains l'une dans l'autre, entrechoquons 2 cailloux. Pour bien moins, un oiseau qui ne vous verrait pas, à l'instant suspendrait son chant, s'envolerait éperdu. Elle, imperturbable, continue de bruire comme si de rien n'était. De mes expériences en pareil sujet, je n'en mentionnerai qu'une, la plus mémorable. J'emprunte l'artillerie municipale, c'est-à-dire les boîtes que l'on fait tonner le jour de la fête patronale. Le canonnier se fait un plaisir de les charger à l'intention des cigales et de venir les tirer chez moi. Il y en a 2, bourrés comme pour la réjouissance la plus solennelle. Jamais homme politique faisant sa tournée électorale n'a été honoré d'autant de poudre. Aussi, pour prévenir la rupture des vitres, les fenêtres sont-elles ouvertes. Les 2 tonnants engins sont disposés au pied des platanes, devant ma porte, sans précaution aucune pour les masquer. Les cigales qui chantent là-haut sur les branches ne peuvent voir ce qui se passe en bas. Nous sommes 6 auditeurs. Un moment de calme relatif est attendu. Le nombre des chanteuses est constaté par chacun de nous, ainsi que l'ampleur et le rythme du chant. Nous voilà prêts, l'oreille attentive à ce qui va se passer dans dans l'orchestre aérien. La boîte part, vrai coup de tonnerre. Aucun émoi là-haut. Le nombre des exécutants est le même, le rythme est le même, l'ampleur du son est la même. Les 6 témoignages sont unanimes. La puissante explosion n'a modifié en rien le chant des cigales. Avec la seconde boîte, résultat identique. Que conclure de cette persistance de l'orchestre, nullement surpris et troublé par un coup de canon? En déduirais-je que la cigale est sourde? Je me garderai bien de m'aventurer jusque-là. Mais si quelqu'un plus audacieux l'affirmait, je ne saurais vraiment quelle raison invoquer pour le contredire. Je serais contraint de concéder au moins qu'elle est dure d'oreille et qu'on peut lui appliquer la célèbre locution « crier comme un sourd ». Lorsque sur les pierrailles d'un sentier, le criquet à ailes bleues délicieusement se grise de soleil et frôle de ses grosses cuisses postérieures l'âpre rebord de ses élytres, lorsque la grenouille verte, la rainette, non moins enrhumée que le cacan, se gonfle la gorge dans le feuillage des arbustes, et la ballonne en sonore vessie au moment où l'orage couve, font-ils appel l'un et l'autre à la compagne absente? En aucune manière. Les coups d'archet du premier donnent à peine stridulation perceptible. Les volumineux coups de gosier de la seconde se perdent, inutiles. La désirée n'accourt pas. Est-ce que l'insecte a besoin de ces effusions retentissantes, de ces aveux loquaces pour déclarer sa flamme? Consultez l'immense majorité que le rapprochement des sexes laisse silencieux. Je ne vois dans le violon de la sauterelle, dans la cornemuse de la rainette, dans les cymbales du cacan, que des moyens propres à témoigner la joie de vivre, l'universelle joie que chaque espèce animale célèbre à sa manière. Si l'on m'affirmait que les cigales mettent en branle leur bruyant appareil sans nul souci du son produit, pour le seul plaisir de se sentir vivre, de même que nous nous frottons les mains en un moment de satisfaction, je n'en serais pas autrement scandalisé. Qu'il y ait en outre, dans leur concert, un but secondaire où le sexe muet est intéressé, c'est fort possible, fort naturel, sans être encore démontré.